Bonjour, autre radio, autre culture. Aujourd'hui, nous recevons le grand guitariste Kent Biswell, guitariste colombien. Bonjour Kent.
Et bonjour Marion, et merci pour me avoir ici dans cette émission de radio.
Voilà, alors nous allons parler aujourd'hui de Kent, de toute sa vie professionnelle de guitariste et de sa vie en Colombie. Alors c'est un musicien qui a énormément bougé. Elle a été aux États-Unis et puis dans des tas d'endroits un peu spéciaux, et j'aimerais bien qu'il nous en parle. Alors, je sais que tu es originaire donc d'une famille colombienne.
Et oui, je suis originaire d'une famille colombienne, mais anglaise aussi. Mon grand-père, il était anglais. Ouais, il est venu en Colombie et lui, il a resté là. Et c'est là que ça reparte ma famille.
Est-ce que tu es originaire d'une famille de musiciens?
Oui, pas de musicien professionnel, mais oui, pour le côté de ma mère, il y a ma tante, ma grand-mère, et ma mère, ils tous chantent, ils jouent des instruments à cordes. Et le côté de mon père, lui, il était chanteur aussi, il était ténor, mais pas professionnel. Ça veut dire qu'à la maison, on avait une ambiance musicale tout le temps. On écoutait des Tchaïkovski, pas mal de musique.
Alors, tu as commencé ta vie professionnelle très très tôt, puisque déjà en 70, ça marche bien pour toi.
Oui, heureusement, j'avais la chance de rentrer dans la vie professionnelle de la musique à 14 ans. C'est-à-dire qu'à 15 ans, déjà, j'étais indépendant et j'ai gagné ma vie avec la musique.
Et tu jouais quel type de musique à ce moment-là?
À ce moment-là, bon, j'ai joué du rock. C'est normal, c'était l'époque des Beatles, des Rolling Stones. Et je faisais pas mal de rock. Moi, j'ai joué avec un groupe en Colombie qui était très, très connu. On avait enregistré 4-5 LP à l'époque. Et c'était bien. C'était une bonne période de ma vie.
Alors, j'ai appris, dans ces années-là, tu as eu ton propre show télévisé. Est-ce que tu peux nous en parler un peu?
Oui, c'est ça, avec ce groupe-là, on avait des tubas en Colombie, un petit peu dans toute l'Amérique latine. Ils nous ont proposé d'avoir une show à la télé toutes les semaines. Et là où on faisait venir des gens pour chanter, des amateurs, et c'est nous, les groupes qui les accompagnaient. C'était un type Star Academy, années 70. C'est passé comme ça, mais nous, on était comme les stars de programme.
Alors, c'est amusant parce que on entend beaucoup parler de musique latine, mais en fait, toi, tu as commencé au niveau professionnel, justement, dans cette musique rock occidentale, américaine, du Nord.
Oui, c'est normal parce que, bon, en Colombie, tu sais, on est très dépendant des États-Unis. On est à côté, on a une éducation presque américaine. Et oui, là-bas, il y avait des stations de radio il y a des stations de radio où on passe que de la musique américaine. Et comme c'était la sortie de la guitare électrique, et bon, c'était normal que pour jouer la guitare électrique, on jouait du rock.
Alors cet amour du rock, est-ce que c'est cela qui t'a incité à partir de Colombie et aller aux États-Unis?
Oui, dans cette époque-là, en même temps, moi, j'ai fait la formation dans le conservatoire. Et c'est ça qui m'a poussé vraiment à devenir un musicien professionnel. Après, j'ai décroché un contrat pour travailler aux États-Unis. Et c'est là que je suis parti pour la première fois. J'avais 18, 19 ans.
Ouais, c'est très très tôt tout ça.
Ah oui.
Et alors, j'ai appris également que tu es allé donc à New York.
Oui, là, j'ai travaillé dans les bateaux, dans les croisières. Alors, j'ai travaillé dans les bateaux croisières pendant 2 ou 3 ans. Aux États-Unis, on faisait tous les Caraïbes. J'ai travaillé avec un trio qui s'appelait le Midnight Trio. Mais après, je suis resté là en Amérique. Bon, j'ai vécu au New Orleans d'abord. Après Philadelphie, New York et Miami. Et j'ai tourné pas mal parce que j'ai travaillé avec un groupe de musique country et on tournait un petit peu partout.
Et à la Nouvelle-Orléans, en Louisiane, il me semble que tu es allé en Louisiane. Quel type de musique tu jouais là-bas?
Oui, moi, j'ai joué des funky et de la country music. Mais en même temps, j'ai fait mes études à la UNO, c'était la Université de la Nouvelle-Orléans. J'ai fait des études de guitare et d'harmonie de jazz.
Donc en fait, tu es un peu touche à tout?
Oui, j'ai comme je ne sais pas comment dire, mais heureusement, j'ai touché un petit peu toutes les musiques, tous les styles.
Alors, moi, je me suis toujours amusée à lire ta bio. Et alors, il y a un moment, il y a quelque chose qui m'a vraiment étonnée. Alors, à ce moment-là, je me suis dit, ah ben, c'est peut-être avec tout ce qu'il avait fait avant, c'est peut-être un retour sur soi, un besoin de réfléchir. Tu es parti, et ça m'a semblé extraordinaire, tu es parti 4 ans à l'île d'Aruba.
Oui, ça c'est... J'étais aux États-Unis et une fois, je suis rentré en Colombie pour des vacances. Alors, une nuit, je suis passé dans une boîte pour retrouver mes amis, pour faire un petit jam session, vous voyez, j'étais en vacances. Et il y avait quelqu'un qui arrive, c'était un chef d'orchestre, il dit, oh, j'ai besoin d'un guitariste pour aller à Aruba. Et j'étais là, il dit, bon, c'était bien, bien payé à l'époque. J'ai dit, bon, si tu veux, oui, je peux le faire. Alors là, j'étais... engagé, je suis parti à l'île d'Aruba. C'était une île dans les Caraïbes, en face de Venezuela. Et j'ai resté là pendant 4 ans. On accompagnait des shows qui venaient de Las Vegas, de New York, de tout ça. Et en même temps, on jouait de la musique pour danser.
Alors peux-tu nous expliquer, parce que tout le monde ne sait pas qu'est-ce que c'est que l'île, ce que représente l'île d'Aruba. On imagine un peu l'île avec ses cocotiers et ses plages de sable blanc. Mais en fait, à l'époque, ça n'a rien à voir. Enfin...
Oui, à l'époque, c'était une île où il y avait les plus grands casinos du Caraïbe. Il y avait là, l'hôtel où j'ai travaillé. C'était un casino, un méga casino. Et en même temps, dans l'île, il y avait la plus grande raffinerie de pétrole de l'Amérique du Sud. Parce que cette île, c'était hollandaise. Alors, il y avait tout le pétrole de Venezuela qui passait par là pour être raffiné et de la partie des États-Unis, même ici en Europe. Alors, il y avait beaucoup, beaucoup d'argent dans cette île. Et dans cette époque-là, il y avait au moins 15 orchestres de 20 musiciens, 25 musiciens. C'était la belle époque. Il y avait même le Gato Barbieri qui était là. Il y avait passé par là. Il y avait Di Martinez. Il y avait Tito Puente, il y avait pas mal de musiciens qui après ils sont partis aux États-Unis.
C'est impressionnant quand même. Moi, ça me surprend toujours de voir des toutes petites îles comme ça qui arrivent à avoir une incidence musicale comme ça et à recevoir toutes ces vedettes. Moi, ça me laisse pantoise. Ensuite, tu repars en Colombie. Est-ce que ta manière de jouer change? Est-ce que tu vas vers un registre particulier?
Oui, là, après cette expérience en Aruba, où j'ai travaillé pour les choses, j'ai fait les connaissances du jazz, et là, je me suis plongé vraiment dans la musique de jazz. Parce que je me suis dit, c'est ça que j'aime bien, c'est ça que je voudrais faire. Alors, je suis rentré en Colombie, et j'ai créé un bar qui s'appelait le Café del Jazz. C'était à Bogota. Et c'était un endroit où on a joué le jazz pendant quelques années et il passait beaucoup de bons musiciens là-bas.
Et cela a apporté ses fruits, enfin...
Oui, au niveau de la musique, ça a apporté pas mal de fruits. J'ai travaillé beaucoup, mais après, il y a une période où comme que ça, c'était presque fini, le Café del Jazz, parce que... Il y avait la musique de rap qui commence à sonner, tout ça. Et je me suis dit, bon, il faut bouger. Et je me suis dit, bon, je vais aller à Paris, je vais habiter à Paris. Et c'est là que je suis laissé la Colombie, je suis venu pour habiter ici en France.
D'accord. Mais pourtant, tu as créé le Festival international de jazz à Bogota.
Dans cette époque-là, du Café del Jazz, oui, j'ai créé le Festival international. Il y avait un des plus grands directeurs de théâtre de Colombie qui s'appelle Ricardo Camacho. Lui, il a fait ses études ici à Paris, aussi il était dans la Comédie Française. Et un soir, il est rentré là, au Café del Jazz, il m'a dit, écoute Kent, je suis en train de construire un grand théâtre ici. Est-ce que tu veux le connaître? Et il a dit, oui, bien sûr, je vais. Alors j'étais là et je lui ai dit, oh, c'est magnifique le théâtre. C'est un théâtre pour 1000 places. Et pourquoi pas on fait un festival de jazz ici? Il dit, tu penses que ça marche? Il dit, oui, bah oui. Et c'est là que le festival de théâtre de Bogota a démarré. Aujourd'hui, c'est le plus grand festival de jazz de la Colombie. Et il y a tous les grands du jazz qui sont passés par là. J'ai resté pendant 4 ans directeur de ce festival. Après, dans les années 80, l'année 2000, je suis joué au festival aussi.
C'était le retour aux sources.
C'était le retour, oui, oui, oui.
Alors, comme tu l'as dit tout à l'heure, tu es venu à Paris. Alors, pourquoi Paris?
Pour faire des études, pour la culture française, c'était passionnant. Oui, ma femme, elle a fait ses études ici. Et elle me dit, ah, c'est beau, j'ai des amis là-bas, des amis musiciens. Et je voulais aussi continuer mes études. Et j'ai dit, oui, je vais y aller là-bas. Je pense que c'est une ville, la ville culturelle la plus importante d'Europe, même du monde.
Et qu'est-ce que cela apporte au niveau musical, Paris, enfin tout au moins la France?
Ça m'a apporté une richesse grandiose parce qu'ici, c'est vrai que c'est une crisole, là, on trouve presque toutes les cultures, les cultures africaines, les cultures maghrébines, les cultures de l'Europe de l'Est, les cultures des Anglais, la culture française même. Je me suis retrouvé avec toute cette musique-là que dans cette, avant je ne connaissais pas. Alors, ça m'a apporté beaucoup.
Alors, ce qui m'a impressionné, c'est le fait qu'à chaque fois que tu viens dans un pays, tu t'inscris à l'université et tu suis des études. Et alors, à Paris, ça a été ce qui s'est passé également aux États-Unis et ailleurs. Tu t'es inscrit et tu as travaillé à l'université et également au Conservatoire National de Musique. Tu as travaillé la musique.
Oui. Parce que bon, je suis inquiet, je n'aime pas être à la maison sans rien faire. Bon, c'est vrai qu'il faut travailler l'instrument, mais j'aime bien apprendre. J'aime beaucoup la université, j'aime bien apprendre.
Et tu continues toujours à apprendre?
Maintenant, je suis venu, je me suis inscrit au doctorat. Mais le problème, c'est que pour faire le doctorat, j'ai déjà fait toutes les assignatures théoriques. J'ai fini. Mais il faut faire le terrain. Et là, c'est problématique parce que moi, j'ai travaillé sur la cumbia. J'ai fait la recherche sur la cumbia parce que j'ai fait la musicologie, maintenant la ethnomusicologie. Mais pour faire la recherche, il faut aller en Colombie, être sur le terrain pendant quelques mois. Il y avait la situation politique, c'est un peu compliqué. Et avec mon nom aussi, parce que moi, je m'appelle Ken Bisbola quand même. Et là, des fois, il me prend par un gringo, tu vois, et c'est un petit peu dangereux. Alors, je me suis arrêté là.
Et on va parler de la Colombie un petit peu. Là. Quel changement depuis les années 70 en Colombie?
Oui, il y a beaucoup de changements au niveau de la musique par rapport à la violence, à tous les déplacements des paysans, parce que toute cette violence a créé beaucoup de déplacements des paysans de la campagne vers la ville. Alors, c'était dans la campagne où il y avait toutes les sources de la musique. Et comme il y a eu cette migration vers la ville, il y a beaucoup de changements dans la musique. Il y a de l'appropriation, il y a une appropriation, il y a une globalisation aussi de cette musique-là. Il y a un besoin de... j'étais au Festival de la Cumbia, ça fait 3 ou 4 ans, comme jury, Festival National de la Cumbia. Ça se déroule dans dans une ville qui s'appelle El Banco, c'est à la campagne. Et en parlant avec tous les musiciens là, les paysans, je me suis rendu compte qu'ils veulent venir vers cette musique plus occidentalisée, vers tous ces nouveaux sons qu'on a aujourd'hui. Ils veulent avoir une appropriation de toute cette nouvelle musique pour l'intégrer dans cette musique-là. Ça veut dire que ça a donné un changement dans la musique. Au niveau des paroles, on peut les voir, et au niveau de l'instrumentation aussi.
J'étais étonnée en discutant avec Alfredo Cutufla et en discutant également avec d'autres musiciens vénézuéliens qui disaient que la Colombie était encore un très 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 grand marché pour la vente des CD par rapport à d'autres pays ou par rapport à l'Occident. Alors pourquoi ça ?
Parce que là-bas, les gens, même si on a ce problème politique de violence pendant 40 ans, ça fait depuis les années 50 même, et c'est un pays qui se conserve encore, les gens, ils sont toujours en train de penser à la fête, et de penser à danser, à écouter la musique. Et à partir de là, savoir qu'il y a une consommation de musique. Peut-être que c'est une façon de les gens de s'évader un petit peu de la violence quotidienne, qu'on ne la voit pas dans la ville, bien sûr, c'est dans la campagne, mais on l'écoute dans les journaux de tous les jours. Et ça peut être une raison de cette consommation de musique. C'est une façon de les gens de s'évader un petit peu de cette quotidianité de la violence.
Et les paroles des chansons portent sur quoi exactement ? Tu parlais de la violence, mais ils sont pour cette violence, contre cette violence ? Est-ce que ce sont des paroles politiques contre le gouvernement, contre par exemple les FARC ? Ça a quelle dominance en général ?
Il y a plusieurs courants. Il y a un courant qui est contre les guérillas, et il y a une autre que c'est aussi peut-être que parce que les FARC, ils font des disques aussi, ils font des CD, ils engagent des musiciens, ils les payent, qui font des arrangements, ils registrent des CD aussi. Mais c'est toujours un petit peu, ils parlent aussi toujours de la façon de vivre de les gens, comment ils vivent et comment cette violence rentre dans sa vie. Et c'est une musique qui parle de la quotidianité de les gens.
Et la musique est toujours très américanisée ?
Oui, ça reste toujours très, très américanisé. Et on peut voir Carlos Vives, Juanes. Mais en même temps, au niveau de la salsa, et c'est vrai qu'en Colombie, on a créé un style particulier. Et quand on écoute des groupes comme le groupe Nietzsche, Guayacán, son de Cali, on peut dire que c'est la salsa colombienne. Il y a une définition aussi.
Avec quel type d'instrument ? Toujours les mêmes par rapport aux autres salsa, enfin aux autres...
Oui, l'instrumentation, c'est la même. Peut-être qu'il y a plus de trombones. Mais c'est la façon comme de faire les chœurs, c'est la façon d'écrire les cuivres, c'est une façon particulière. Et il y a aussi, c'est vrai qu'il y a des infusions de musique un petit peu folklorique, on va dire ethnique, parce qu'en Colombie, il y a tellement de musique ethnique, même aujourd'hui, les chercheurs, les musicologues colombiens, ils ne sont pas arrivés à la classifier. Parce qu'on a la côte atlantique, la côte pacifique, et les milieux du pays, et après il y a la frontière avec le Venezuela. Et dans chaque région, que dans la région Caribe, que c'est un petit peu mon domaine, il y a plus de 600 rythmes classifiés. Après,
600 rythmes classifiés.
Ah, bah oui. Et après, il y a encore je ne sais pas combien qu'on n'a pas encore arrivé à classifier. Savoir que c'est un pays très très riche au niveau des folklore.
C'est particulier à la Colombie, on ne trouve pas ça dans les autres pays d'Amérique latine.
Non, on ne trouve pas ça. À Cuba, on trouve bon, les sons, la rumba, les guaguancos, au Brésil aussi, mais en Colombie, c'est particulier. C'est particulier. C'est vrai que les mélanges qu'on a eu en Colombie pendant la colonie, c'était spécial. Parce que c'était la porte d'Amérique, c'était la porte d'Amérique pour l'arrivée des Espagnols. Et pas seulement des Espagnols, mais on a eu aussi des Français, des Allemands, et après on avait une immigration qui venait de la Turquie, qu'on appelle les Turcs. Mais il n'y avait pas que des Turcs, il y avait des Libanais, de tous les gens de l'Afrique du Nord. C'est-à-dire que il y a vraiment un mélange très, très particulier en Colombie. Et on a aussi, bien sûr, la culture noire, parce que Cartagène, c'était un point très important d'arrivée pour l'arrivée des esclaves. Et la culture des Amérindiens qui étaient sur place, qui était très riche aussi au niveau de la musique. Il y avait des flûtes, différentes flûtes qu'on peut trouver. Et tout ça a donné une richesse au niveau ethnique très, 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 très grande.
Est-ce que la jeunesse colombienne se reconnaît dans ce style de musique?
Oui, aujourd'hui, ça c'est parce qu'on a dans le monde et à travers les maisons de disques, les grandes maisons de disques, ils se sont rendus compte que dans le world music, ce qu'on appelle le world music, il y a un grand marché et que ça marche bien, c'est moi la redondance. Et avec les festivals comme le Women's Festival en Angleterre, tout ce type de choses sont faites que les Grammy aux États-Unis, que les gens maintenant poussent se suivent sur cette musique-là. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a pas mal de groupes de musique ethnique qui sont avec les gens de 18, 19, 20 ans. Mm-hmm. Et même, on vient de gagner un Grammy latino avec cette musique folklorique, de la cumbia folklorique. Savoir que c'est avec les trois tambours et les flûtes que c'est pas connu. Et la cumbia, mais que c'est un des les rythmes les plus typiques de la Colombie. Il s'est répandu partout en Amérique. On trouve la cumbia au Mexique, on la trouve au Panama, au Nicaragua, au Équateur, au Chili, en Argentine, au Pérou. Et c'est avec, bien sûr, différentes formes. Façon de la jouer, mais c'est de la cumbia. Mm-hmm. Même ici à Paris, on a un groupe qui s'appelle Cumbia Ya, et c'est des Argentins.
Alors, vous êtes revenu sur Paris, avec toute la petite famille, et qu'est-ce que vous faites actuellement? Alors, vous m'avez parlé d'une thèse, mais au niveau de la musique, quel est votre cheminement en ce moment?
Bon, c'est vrai que maintenant, c'est de plus en plus difficile de vivre ici de la musique. Et d'abord, bon, il faut travailler pour pouvoir payer le loyer et tout, et pour être intermittent, que ce n'est pas facile pour avoir les cachets. Ça, c'est la priorité. Bon, une fois que ça, c'est ça. Après, la composition, et je suis en train de avoir un projet pour faire la composition, pour avoir une nouvelle CD. Et aussi, avec un ami saxophoniste à moi, il y a un autre projet pour faire une autre CD avec la musique de la Colombie. Et un petit peu, il faut essayer de réinsérer la musique française aussi, un petit peu la musique de l'Europe. C'est comme ça le projet.
Et la musique en France, qu'est-ce que vous en pensez?
Et c'est un petit peu particulier parce que comme ici en France, les racines de la musique, c'était bon, dans l'époque de Versailles, et les minuets, tout cet style-là, que c'était très très bon. Et après, ça s'est arrêté un petit peu. Et on ne trouve pas aujourd'hui vraiment de la musique ethnique au terroir, dans la campagne. Et il y a la chanson française, que c'est un petit peu particulière. Moi, j'ai travaillé aussi avec un parolier français qui s'appelle Bernard Guy. Il était directeur du festival de la musique française à La Rochelle. Mais je trouve que la musique s'est un petit peu arrêtée. Et avec cette culturisation, entre guillemets, de la musique américaine, un petit peu dans le monde, on peut pas le nier, on peut pas l'arrêter non plus. Et je pense qu'il faut que de nouveaux souffles, hein, de nouveaux souffles pour pouvoir repartir des chemins qui peut vraiment identifier la musique française. Oui, on avait Aznavour, on avait Edith Piaf, à un moment donné, mais à partir de là, aujourd'hui, on n'a pas vraiment de gens que le monde peut identifier comme vraiment de la chanson française.
Oui, actuellement, il n'y a personne en chef de file pour la chanson française.
Voilà, c'est ça, ouais. Parce que bon, c'est l'idiome, mais...
Elle n'est pas française,
elle est canadienne. Et elle a un style très américain aussi.
Tout à fait.
Ça veut dire qu'après Aznavour, que c'est magnifique, et Edith Piaf, que c'était un point de...
Sur ce, Céline Dion a fait une carrière internationale aussi, grâce à un Français, qui est quand même compositeur et... parolier, qui est Jean-Jacques Goldman.
Bah, bien sûr, lui, c'est très important. Mais si on voit dans ses compositions, c'est très, très, très anglais, très américanisé.
Oui.
Son style, qui est bon. Ça veut dire que c'est pas bon, parce que c'est très bon, c'est très bien fait. Mais ça identifie pas vraiment le peuple français.
Donc il n'y a plus cette culture française à l'ancienne, finalement ?
Non, il n'y a plus. Mais on peut le voir aussi dans la vie quotidienne. Parce que si la rentrée de toutes les grandes surfaces de marché à niveau de la ceinture de parisienne et tout ça, ça commence à tuer un petit peu toute cette culture française qui était très bonne, qui était les fromagers, les charcutiers, tout ce petit que... détails que font la France.
Oui, ça a été le problème français de...
Bah, c'est un problème de la globalisation.
De la globalisation, oui. Encore que ça revient, mais ça devient du luxe.
Voilà. Mais surtout au niveau de la culture biologique, mais bon, c'est une luxe, comme tu dis.
Et qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle génération de chanteurs français dont on parle sans arrêt, comme Benabar, Raphaël et compagnie?
Je pense que au niveau commercial, ils sont bien, mais ça ne représente pas vraiment la culture française. Ça ne représente pas vraiment la France. Parce que bon, ça, c'est très, très américanisé.
Mais quand on y pense, hein, quand on écoute les chansons d'Edith Piaf, etc., c'est une culture française, je veux dire presque parisienne. C'est pas la culture française,
bah oui,
de région. C'est-à-dire quand vous voyez les chanteurs du Béarn, traditionnels du Béarn ou traditionnels de Bretagne ou de Normandie avec ses gigues et ses violoneux, ce n'est pas quelque chose qui a transpercé au niveau de la variété française. Pourtant, c'était des musiques excessivement rythmées, excessivement allantes.
C'est vrai, mais... ça passe pas avec Aznavour, c'est un petit peu plus toute la France. Mais c'est vrai qu'il faut aller vers la Bretagne, vers la Normandie, même vers la Lande, où il y a des musiques qui sont très très bonnes. La musique celte même, ça représente bon, cette partie de la Bretagne. Et je pense qu'il faut intégrer toute cette musique dans la musique française d'aujourd'hui. Il faut faire, aller vers là, vers la source. C'est ça le problème, parce que la musique, elle est dans la source, dans les racines. Et si on va pas là-bas pour la chercher, pour la faire sortir, on va pas la voir.
Bien, eh bien, je vous remercie. Je remercie beaucoup Ken Biswell.
Merci à vous, Marion.
Est-ce qu'il y a des concerts en perspective?
Et oui, mais pas en France, en Belgique.
En Belgique?
Oui, vers le mois de mai. Et après, je vais partir en Italie aussi. À Paris, c'est... Non, pas à Paris.
Oui, c'est ce que disait aussi Alfredo Cutufla. Lui, il critiquait le fait qu'en France, on ne pouvait pas tourner. Et qu'on était obligé de tourner en Europe. Et que c'était très très difficile d'arriver à revenir en France parce qu'on ne payait pas. Enfin, lui, il se plaignait de cela.
Ça, c'est un phénomène qui est apparu, je pense, qu'après que l'euro a rentré dans l'Europe. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec la France. Mais c'est vrai que maintenant, on travaille ailleurs. On travaille beaucoup dans les pays du Nord. Et dans l'Italie, dans l'Espagne. Travaille pas mal au Barcelone, dans tous les festivals, parce que c'est payé. Et c'est pas que ce soit très très bien payé, mais c'est payé. Mais ici en France, les gens ils veulent plus payer les musiciens maintenant.
Il y a une désaffection de la part des entrepreneurs et des festivals.
Oui,
des...
oui, ou peut-être, je ne sais pas, c'est que c'est au niveau des. De les collectivités au niveau de la région, s'il y a les budgets, il y a moins de budgets qu'avant. Avant, il y avait beaucoup plus de actes culturels où on allait un petit peu partout. Maintenant, il y a de moins en moins. Hein.
Oui, je vois tous les musiciens qu'on rencontre, effectivement, ont des carrières internationales, mais ne tournent pas en France. Ça, c'est... Et j'ai l'exemple également d'un très grand compositeur et d'un très grand guitariste brésilien.
Oui.
Qui ne veut pratiquement jamais venir en France. Il dit que ça pose beaucoup trop de problèmes.
Et c'est dommage parce que je me rappelle avant, dans les années 85, 96, 97, on tournait beaucoup en France, on tournait vers toute la Bretagne, vers le sud. Un petit peu partout, il y avait des festivals partout et ça passait très très bien. Mais maintenant, il y a de moins en moins. Je ne sais pas si c'est au niveau du ministère de la Culture qu'il y a moins de budget pour toutes les régions, moins de budget pour les...
Est-ce que
c'est une question de la politique aussi. Hein.
Bien, on va s'arrêter là.
Ok, Marion.
Je remercie beaucoup Ken Biswell.
Non, merci
et puis,
à vous.
J'espère qu'on se retrouvera bientôt.
Merci beaucoup.
Prochaine interview, celle de Franck Galli, qui est violoniste à l'Opéra de Paris. À bientôt, au revoir.
Au revoir, merci.